Bonjour, les papous, c'est la récré de France Culture. À l'affiche du jour, un numéro spécial UNESCO et la Huchette, avec le cri du cœur de Gérard Mordilla et les homophonies en forme de pièces de théâtre sur La leçon à la Huchette par Jacques Vallée, Patrick Beignet, Ricardo Mosner et Odile Conseil.
Lundi, j'ai leçon de piano, jeudi, leçon de choses, samedi, leçon d'objet, mercredi, c'est le jour des cas leçons, mardi...
Mardi, well, 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 le chapeau de ma tante est plus grand que le jardin de mon oncle. Regardez!
Et puis, notre jeu de bluff et de pastiche sur une œuvre de UNESCO choisie par Jean-Bernard Pouy, Fosser, Sophie Divry, Patrice Delbon, Lucas Fournier, expert Odile Conseil, Patrice Caumont.
Là, je ne dis pas que la fin est mal écrite, mais elle n'a pas le côté révélation, entre guillemets, plus ou moins mystique que nous avait un petit peu annoncé Pouy, avec cette trouée dans le ciel devient oui. Juste un petit trou, et l'échelle qu'on imaginait, une échelle de Jacob, enfin l'échelle des anges, devient un escabeau. Alors là...
François Strossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Merci de votre douce fidélité à nos jeux. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce numéro UNESCO et la Huchette. D'abord, un peu d'histoire d'amour pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Huchette. C'est un tout petit théâtre parisien créé en 1948 rue de la Huchette au quartier latin et qui accueille deux pièces de jeunes UNESCO depuis 60 ans. La leçon et la cantatrice chauve. C'est un record de longévité pour des spectacles joués non-stop dans un même lieu. Ces deux pièces qui permettent à tous les jeunes acteurs de se faire la voix et de tester leur talent d'acteur sur des textes du théâtre de l'absurde. Les Parisiens y vont, les provinciaux y courent lorsqu'ils sortent à Paris. C'est un lieu culte qui a vu se succéder de grands directeurs de troupe comme Nicolas Bataille. Et en ce mois de février, la jeune équipe qui a repris cette salle de spectacle fête les 60 ans de la présence des pièces de UNESCO à la Huchette. Alors, j'ai demandé à Gérard Mordilla, papou, cinéaste, écrivain, qui va bientôt se lancer dans la comédie musicale, figurez-vous, mais oui, à Gérard Mordilla, donc, de nous dire son admiration pour la Huchette et UNESCO. Et quand il aime Gérard, il est enthousiaste et joueur. Alors, ça se présente comment, Gérard, cet exercice d'admiration? C'est une devinette?
Non, pas vraiment par une devinette. Je commence par une charade.
Oui?
Alors, écoutez bien.
Ouais.
Mon premier est une peau de vache. Oui. Mon deuxième est incorruptible. Mon troisième peut se prénommer Sébastien, Jonathan ou Jean. Et mon tout est un auteur de théâtre qui, s'il n'a pas inventé la roue et dont nous ignorons les manies, était Romain de Roumanie, né à Slatina, anagramme dyslexique de Stalina, une ville qui d'emblée vous forge un destin. Alors reprenons. Mon premier est une peau de vache. Yo!
Yo,
ah yo. Tous les amateurs de mots croisés savent ça.
Ah oui, moi je ne suis pas très spécialisée, mais j'aurais deviné, oui.
Mon deuxième est incorruptible.
Le nez?
Ness. Elliot, ouais. Ness.
Ah,
Elliot Ness, qui fit les beaux soirs de la télévision française sous les traits de Robert Stark. Mon troisième peut se prénommer Jean, Sébastien ou Jonathan.
Sébastien Coe.
Voilà, même l'horrible Jean Coe, ouais, qui n'est pas un champion de triple saut ni un merveilleux romancier.
À qui donc, Renaud faisait sa fête dans la chanson des jeunes matelots.
Donc, UNESCO. Ouais. Mais oui, UNESCO, ce vieux professeur de français qui, depuis 60 ans, donne la leçon à son élève en son théâtre de la Huchette à Paris, tandis que sa cantatrice chauve, bien connue dans le quartier, tient la caisse, range les chaises et sa perruque. En 1968, Monsieur UNESCO a eu chaud à la plume. Cela faisait un bail qu'il tenait la place, et entendant les étudiants scander « 20 ans, ça suffit, le peuple en a assez », il crut venu sa dernière heure. Mais non, le coup passa si près que le rideau tomba, le temps d'une grève, mais dès que l'été fut revenu, UNESCO, tel le phénix de ses bois, reprit ses cours, sans tralala, sans chichi, sans flafla. Se débarrasser d'Amédée est à la portée du premier Roumain venu, se débarrasser d'Ionesco suppose un peu plus que des barricades rue Gay-Lussac et des voitures incendiées. Donc, depuis 60 ans, l'école de M. Ionesco prospère. Son enseignement plaît, sa leçon porte. Et il a notamment formé tous les scénaristes contemporains qui travaillent pour France Télévisions. On reconnaît le style inimitable de leur inimitable maître dans ces dialogues inimitables de tous les téléfilms de France 2 et France 3, comme par exemple celui-ci d'un feuilleton de l'été. « Ah, j'aperçois Jean-Jacques, mon petit beau-fils, qui travaille avec Charles, mon mari, dans la cimenterie de mon grand-père Henri. Bonjour Solange, je vois que vous tricotez une de ces merveilleuses écharpes en laine des Pyrénées que vous nous offrez toujours à Noël le 25 décembre. Oh, ne soyez pas taquin, mon petit Jean-Jacques, ne me taquinez pas. Dites-moi plutôt ce qui se passe à la cimenterie. Charles, mon mari, dont on fêtera demain les 60 ans, ne me dit rien. Et j'ai de la blanquette à préparer. » etc. Ouais. Le Ionesco est un langage. Sur scène, comme à l'écran, grand ou petit, dans le Ionesco conscient ou inconscient, tout doit être dit et répété. Rien ne doit être tu au spectateur du spectacle spectaculaire à tous et à toutes. Vous suivez ?
Oui.
Un peu de géographie maintenant, une autre charade. Ma première coule à Auxerre. Mon deuxième coule outre Quiévrain, et mon tout est un Français qui, dit-on, a appris la langue de Molière dans la méthode Assimile.
Je trouve pas.
Ma première coule à Auxerre.
L'eau ?
Lyonne !
Lyonne ! Oui, ben c'est de l'eau, hein, quand même.
Mon deuxième coule outre Quiévrain. Lescaut !
Oui !
Ionesco ! Ionesco, le créateur de la fameuse langue de bois, si bien en cours auprès du personnel politique. Un exemple de sa création à propos d'une loi électorale. De deux choses l'une, j'accepte qu'on la révise, mais qu'on n'y change rien. Ou qu'on ne la révise pas, j'accepte, mais qu'on la change par-ci, par-là, et notamment sur les points essentiels, et vice-versa. Tout ça pour dire, puisqu'il faut tout dire, que Ionesco joue sur les mots et qu'il joue aussi sur les deux tableaux présents dans le petit intérieur anglais de sa cantatrice, meublé de meubles anglais, dans une ambiance anglaise, avec des Anglais habillés comme des Anglais, dont le chapeau est plus petit que le jardin de ma tante. Le génie de Ionesco, le bon génie qu'il inspire, c'est le génie de la banalité du mot. La gloire de la phrase creuse comme la dent du même nom, l'épouvantable blablabla du parler pour ne rien dire, dans ce cauchemar climatisé qu'il décrit, où nos paroles sont des bibelots posés sur la desserte. Alors, on dit que c'est absurde, parce que ça fait peur, comme le nazisme qui grandit contre toute raison dans une de ses pièces, et que ça fait rire, comme un rhinocéros brisant tout dans une démocratie de porcelaine, mais un rire qui fait grincer les dents et hérisser le poil. Ionesco n'a pas peur de l'histoire. Pour combattre tous les ismes, nazisme, stalinisme, totalitarisme, il s'en moque comme de l'œuf dur, dont la coquille n'est pas comestible. Reprenons encore une charade.
Oui, allez. J'adore ça.
Mon premier est électriquement chargé.
Oui.
Mon deuxième est un petit noir. Mon troisième est une vache anglaise. Et mon tout porte un uniforme vert poireau, traîne une épée de 6 pieds de long et arbore, tel son rhino, 2 cornes à son chapeau. Qui est-ce ?
Ouais.
Mon premier est électriquement chargé.
Ion.
Bravo ! Le petit ion et ses atomes. Mon deuxième est un petit noir.
Ça, c'est facile, c'est un Ness.
Ness, adoré des publicités.
Ouais.
What else ? Ouais. Mon troisième est une vache anglaise.
Co ?
Co ! Mais oui, comme dans Cowboy, vaché.
Ouais.
Vous voyez, je ionesquise à loisir. Donc, Ionesco. Ionesco Eugène, l'académicien français qui écrivit à la pointe de son stylo cette sentence définitive « Le progrès social est bien meilleur avec du sucre ». Admirable, isn't it ?
Hey, quand That's my song. That's my song now. My body lies over the sea. My body.
Jane Birkin, my bunny.
Eh les filles, les gars, les papous, c'est dans votre tête. Sur France Culture, hein?
Oui.
Et aujourd'hui, c'est numéro spécial, Patrice. Les papous, Ionesco et la Huchette. Alors, quand on est une bonne maman, un bon papa, on emmène ses enfants découvrir la langue de Ionesco à la Huchette pour qu'ils s'amusent de ses bizarreries, qu'ils apprennent à jouer avec elle dans l'absurde. Découvrir la magie du théâtre avec Ionesco, c'est une leçon de délices. Et justement, laissons la cantatrice chauffe pour d'autres jeux et attaquons-nous à cette leçon de Ionesco et plus précisément la formule « la leçon à la Huchette » parce que ça sonne bien, ça donne envie et qu'il me semble qu'on peut jouer avec la musique de cette phrase à l'infini. Autrement dit, jouer à raconter des histoires qui se lancerait sur cette formule, la leçon à la Huchette, et chuterait sur une homophonie approximative, une formule qui, vite dite, aurait à peu près le même son, mais pas le même sens. On peut aussi, si on veut, glisser une homophonie intermédiaire. Alors on joue avec Jacques Vallée, Patrick Beignet, Ricardo Mosner et Odile Conseil. Et c'est Jacques Vallée qui se jette dans l'exercice le premier. En rime ou en prose, Jacques ?
J'ai fait un poème.
Chic.
Et j'ai fait de la Huchette un personnage, une dame.
C'est une très bonne idée. Cette phrase n'est qu'un prétexte à homophonie, à histoire, parce que ce qui compte, c'est l'histoire avant tout.
Oui, et j'intitule ce poème « La leçon ».
Bah, c'est une très bonne idée. C'est assez en situation, oui.
C'est original.
Oui.
Ah, la leçon à la Huchette, elle avait ce qu'elle mérite. Elle me trompait en cachette chez un professeur émérite. C'était un professeur d'anglais, et ce qu'il y avait de pire, il lui enseignait des excès dans la langue de Shakespeare.
Oh, la rime est magnifique.
Huchette devenait canaille, ses propos annonçaient le pire, et l'affront me semblait de taille, elle tenait à les traduire. Elle détaillait ses fredaines, avec ce pervers trouble-fête, qu'elle retrouvait en semaine dans sa maison à la Muette.
Oh, c'est une homophonie, non ?
Oui.
Oui, la leçon à la Huchette.
Elle est intermédiaire.
Sa maison à la Muette.
Oui, dans sa maison à la Muette. Elle n'en était que plus belle. Cette coquine, voyez-vous, j'y tenais comme à la prunelle. De mes yeux, je devenais fou. L'or commença ma reconquête. Je pris moi-même une maîtresse. Une panthère assez coquette à faire pâlir ma tigresse. Huchette n'y résista pas, et ça lui servit de leçon. La jalousie est un appât, elle mordit à l'hameçon. Huchette me rendit les armes, elle montra beaucoup de zèle. Faisant usage de ses charmes, c'est un domaine où elle excelle. Lors, à nouveau, je me soumis, et de nouveau, ce fut la fête. Et de tout cœur, je me remis à cent façons sous sa houlette.
Cent façons sous sa houlette. La leçon à la Huchette, somptueuse. Je ne sais pas si je n'avais pas un faible pour l'intermédiaire. Redites-nous l'intermédiaire.
Dans sa maison à la Muette.
Ah ouais. En tout cas, le poème est magnifique. Alors, c'est pas facile de passer derrière lui, hein, oh, mais c'est à plus. Vous, Patrick Beignet. Eh ben. Vous avez fait le choix poétique aussi.
Ah ben non. Sachant que Jacques était là.
D'accord, vous lui avez laissé.
Ouais, ouais. Bon. De la prose.
Et avec vous, je crois que c'est pas la peine de tendre l'oreille vers une intermédiaire, parce que vous êtes contre l'intermédiaire d'habitude.
Mais je n'interdis à personne de tendre l'oreille. Il faut de toute façon tendre l'oreille pour m'entendre.
D'accord, allez.
La leçon à la Huchette. Qui n'a pas été voir la pièce d'Ionesco dans la mythique petite salle du 5e arrondissement? Tant de célébrités y sont venues depuis tant d'années. Parmi elles, Yvonne Printemps ou Pierre Lazareff, pour ne citer que des noms que tout le monde connaît parmi les plus jeunes de nos auditeurs. De son côté, Claude Lévi-Strauss y assista le 15 juin 1956. Selon plusieurs témoins, il ressortit de la salle dans un rare état d'excitation intellectuelle. « Ça y est !» disait-il. « Ça y est, j'ai tout compris !» Mais il n'a jamais dit à personne ce qu'il avait compris. Dans sa grande étude sur Lévi-Strauss, Jean-Maxence Durand suppose que cette illumination du grand anthropologue serait en rapport avec la question des homophonies approximatives, à laquelle il s'intéressait beaucoup à cette époque. Jean-Maxence Durand s'appuie sur un chapitre des structures élémentaires de la parenté où, dès 1949, Lévi-Strauss analyse l'importance des homophonies dans la recherche intellectuelle. Je ne saurais mieux faire que de citer ici cette page brillante où Lévi-Strauss donne une vision très personnelle des homophonies approximatives. « Quand je sens la proximité d'une homophonie dans un texte que je lis, quand je la sens monter dans les mots, dans la phrase, comme une sorte de poison qui pénètre peu à peu ces termes innocents et jusque-là dépourvus de malignité, je me souviens alors de mes années passées en Amazonie. Parfois, progressant au milieu de populations hostiles au structuralisme et sourdement menaçantes, il nous arrivait de subir de brusques attaques. Au terme de ces longues journées épuisantes, je finissais par être obsédé par une seule chose, l'idée de l'agression à la machette.
Ah, puis c'était palpitant, on attendait ce qu'il allait dire. Alors, la leçon à la Huchette.
L'agression à la machette.
C'est magnifique, hein.
C'est parfait. Modérez notre enthousiasme.
Et puis, ah non, 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 moi je suis très bon public, Patrick.
Et puis elle est inattendue dans la chaîne.
Et oui.
Ouais.
Et je vais être encore très bon public pour Ricardo Mosner, qui a joué lui aussi avec La leçon à la Huchette.
Oui.
Et alors, je crois voir, puisque vous êtes à côté de moi autour de cette table, qu'il s'agit d'un poème.
Oui, c'est un poème.
Donc vous marchez sur les traces de Jacques Vallée.
Exactement. Mais c'est un poème alternatif.
C'est-à-dire ?
Que parfois ça rime et parfois non.
D'accord. C'est pas grave.
Et il s'appelle La répétition.
Oui.
La leçon à la Huchette, non pitié, dit Marie, quand son ami, un peintre ringard et aigri, lui propose du théâtre comme sortie. Puisque tout ceci rime à nid, faisons une poésie pour s'en sortir, lance les peintres abasourdis. Une poésie à deux, c'est pas facile, interfère une voisine pas gentille. De quoi te mêles-tu, grogne le barbouilleur, et barre-toi de notre fenêtre, des commérages il avait horreur. Mais Marie, indifférente, balance en vas-y rentre. Voilà les trois dans la chambrette, Marie, les peintres et la pipelette. Cette dernière, je l'ai pas dit, est expert en tour de magie. Quant à Marie, elle avait écrit au bas mot 10 000 poésies. L'incrustée magicienne se propose comme médiateur. Je sélectionnerai les rimes les meilleures de votre littéraire labeur. Marie est enthousiaste, du moment qu'elle peut palabrer, la vie lui semble faste. Au peintre, cette proposition lui est indifférente. Il a déjà bu 3 verres d'absinthe, puis il déclare « Attention, magicienne ignare, vas-y note, c'est moi qui démarre. » Et c'est ainsi qu'il commence. La leçon à la Huchette, no pitié, dit Marie, quand son ami, un peintre ringard et gris, lui propose du théâtre comme sortie. Puisque tout ceci rime à nid, faisons une poésie. Pour s'en sortir, lance les peintres abasourdis. Eh oh, profère Marie, c'est un cercle vicieux, on va pas s'en sortir. La magicienne questionne, déboussolée. Est-ce ta phrase ou un aparté? Quelle importance, esclave les peintres avec arrogance. On fait de l'avant-garde. On répète 1000 fois les mêmes phrases, même si cela agace. Au contraire, plus on agace, plus c'est meilleur. Et il s'envoie 3 autres verres de liqueur. Halte, mauvais rimailleur. J'ai pas dit mon dernier mot. Devant les pantressos, Marie s'ensurge. La magicienne a pour baguette magique une courge. Et entre-temps, fait disparaître la moquette. Nos trois personnages qui étaient couchés dessus, la magicienne inclus, se trouvent maintenant tout là-haut, planant, sur un tapis volant. En bas, on devine le théâtre des Luchettes. Soudain, un éclair saperlipopette. La magicérome tombe la moquette. Déferle sur les plateaux à Ionesco, la poétesse, les peintres et la sibylle. C'est grotesque, c'est vieillot, c'est du vaudeville. Crie à tue-tête l'absurde trio. N'oubliant pas leur tâche poétique, les peintres des insanités déclament. La poétesse s'enflamme. Et pour se mettre quelque chose sous la dent, la magicienne, en sacrifiant sa magique baguette, croque un morceau de la courgette.
Oh, la leçon à la Huchette, un morceau de la courgette. Non, mais c'est presque la même chose.
C'est aussi exact que de faire rimer courge avec grabuge. Ou...
Oui. Ah non, mais c'est la poésie alternative, comme vous l'avez si bien dit.
Et c'est puis, de l'avant-garde.
Puis à l'Argentine, la rime est argentine un peu.
Oui, la rime
puis
est argentine.
Bien, ils ont dû aussi fumer la courgette, mon camarade. Hein, en plus de la moquette.
Dans l'entracte.
Bon, très très joli.
C'est un morceau de bravoure.
Oui, c'est comme une pièce de théâtre qui pourrait se jouer à la Huchette. Vous devriez la proposer. Il faudrait rajouter deux, trois actes.
J'ai proposé, c'est pour...
Ils ont dit quoi ?
2023.
Très bien. Allez, on continue de fêter la leçon à la Huchette avec Odile Conseil. Alors, ouais, vous êtes la dernière.
C'est dur.
Ils ont été pas mal, il faut dire. Alors, ça se présente comment avec vous ?
Ça se présente comme un dialogue. C'est une sorte de pièce de théâtre. J'ai tenté quelque chose qui ressemblerait à Ionesco.
Très bien, chic. Et donc, vous avez des rôles à distribuer à qui ?
Alors, j'ai un rôle pour Gérard Mordillat.
Il est d'accord ?
Je suis d'accord. Je reconnais mon texte.
Très et je demande à Eva si elle est d'accord pour faire les didascalies, car il y a quelques didascalies.
Je vais essayer aussi.
Très bien, on sent que vous êtes empreint de vos rôles. Allez, c'est parti, on a les trois coups. Non, c'est pas facile, mais on y va.
La leçon à la Huchette se donne tous les jours au théâtre de la Huchette, rue de la Huchette à Paris, à côté de la boulangerie de la Huchette.
Tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, même si les représentations ont lieu le soir est-il un jour ?
C'est une question qui ne se tranche pas facilement. Je ne peux pas trancher d'ailleurs. Lundi, j'ai leçon de piano, jeudi, leçon de choses, samedi, leçon d'objets, mercredi, c'est le jour des cas leçons, mardi...
Mardi, well. Le chapeau de ma tante est plus grand que le jardin de mon oncle. Regardez.
Il se coiffe d'un chapeau piqué de fleurs. Il y a des iris, des pâquerettes, des bégonias et des hortensias.
Regardez, mais n'essayez pas de me faire porter le chapeau. Où je serai obligé de vous donner une bonne leçon.
Une bonne leçon vaut mieux qu'une mauvaise conduite, disait mon oncle qui était chauffeur de taxi.
Votre oncle Benjamin ?
Non, c'était l'aîné, celui dont le jardin est plus petit que le tapis de ma tante.
Elle se lève et arpente la Seine de la cour au jardin en comptant ses pas pour en mesurer la longueur.
Votre tante, la Canadienne ?
Pas du tout, je vous parle d'un tapis de sol, ma tante musicienne. Mais j'y pense. Qui êtes-vous au juste à faire irruption ainsi dans ma pièce, à plonger tête la première dans la Seine, à débouler tel un rhinocéros dans mon jeu de quilles, à grimper au rideau ?
Je suis Jacques Prévert, mademoiselle. Je suis venu pour la leçon. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16, répétez et...
Ah non, pas 16 et 16, il faut que ça cesse. Vous savez combien font or plus or ? Dehors. Dehors, monsieur.
Bien, mademoiselle, je sors.
Il reste là, remet son chapeau à fleurs et s'assied sur le canapé.
Vous connaissez l'histoire du bûcheron qui va pêcher ?
Le bûcheron va pêcher avec sa chemise de bûcheron, sa hache de bûcheron et sa canne à pêche de bûcheron, c'est ça ?
Parfaitement. Le bûcheron attrape un poisson, et c'est beau un poisson pêché par un bûcheron. Il ne pensait pas rencontrer un jour un bûcheron, le poisson, et il regarde le bûcheron avec son œil humide.
Et le bûcheron le caresse dans le sens des écailles. C'est très doux un poisson quand vous le caressez dans le sens de l'écaille.
Et soudain, le bûcheron se met dans l'idée d'ôter l'hameçon de la bouche du poisson. Il prend son instrument, il le lève et...
Et
il enlève l'hameçon à la hachette.
Ah ! Alors on a avait la machette avec Patrick, avec vous, c'est la hachette.
Et ça n'était qu'une intermédiaire.
Non, oh, c'est vrai. Mais c'est comme un bouquet final. La leçon à la huchette.
L'hameçon à la hachette.
Bravo.
Dans le poison, tout est empoisonnant, disait Violette Nozière.
Je ne veux pas être Violette Nozière, ni Charleville-Mézières. Je veux être la Castafiore et empoisonner la vie d'un capitaine.
Les cantatrices ne sont belles que chauves.
Il se lève, enlève son chapeau et sa perruque d'un même mouvement et entonne une nuit sur le mont Chauve en se caressant le crâne.
Je vous laisse Moussorgski, moi je chanterai la chanson d'Annie.
Annie anniversaire? Annie croche? Annie soit qui mal y pense?
Celle de Gainsbourg, vous savez bien.
Annie qui aime les...
C'est ça, la chanson à la sucette.
Ah. La leçon à la huchette, la...
Chanson à la sucette.
C'est très très bien. Quelle belle page de dialogue vous leur avez écrite.
C'est mieux que du Ionesco.
Alors ça, faut voir.
On peut en discuter.
What time is it? Quelle heure est-il? 2h-2. Quelle heure est-il? What time is it? 2h-2. Tout de 2h-2 à 2h-2. Voyons ce qui se passe. Consacrons-y notre classe. From tout de 2h-2 à 2h-2. Daddy on his bike is riding to town.
Papa à vélo se rend à la ville.
From tout de 2h-2 à 2h-2. My sister is swimming across the pool.
Ma sœur en nageant traverse la piscine.
From tout de 2h-2 à 2h-2. Granny is in bed eating her pudding.
Grand-mère est au lit mangeant son pudding.
Bobby Lapointe, from tout. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, au micro Françoise Trossard et la bande des papous du jour pour un numéro spécial « Jouons avec Ionesco » ou les 60 ans de Ionesco à la huchette. Et pour fêter ces 60 ans, tout un programme festif est proposé par Franck Desmet et Gonzague Philippe qui dirige la huchette. Au programme, le 16 février, la soirée chic, tapis rouge, avec en levée de rideau la lecture des mauvaises critiques reçues par la leçon et la cantatrice chauve. Ça, c'est une idée amusante. Et du 4 au 5 mars, les 24 heures de la huchette, vous venez, vous regardez les pièces en boucle, il y aura un buffet, une sieste, avec la diffusion de la version sonore des deux pièces, ce sera très douillé de se laisser bercer par Ionesco. Un petit déjeuner, un apéro, enfin ce sera très joyeux et ludique, tous les renseignements sur le site de la huchette. Et pour ce numéro des papous, et puis on continue nos jeux avec Ionesco. Et voilà, j'ai demandé à Jean-Bernard Pouy de choisir une œuvre de Ionesco, de nous la remettre en mémoire et de la proposer à trois pasticheurs bluffeurs. Sophie Divry, alors c'est la première fois qu'elle joue à ce jeu. Sophie, elle est un peu dans ses petits souliers. Et deux papous bien rodés, Lucas Fournier et Patrice Delbourg, ils feront semblant tous les deux, même tous les trois, puisqu'elle joue aussi, Sophie, de connaître par cœur le début et la fin de l'œuvre proposée, de Ionesco donc, et les écriront, ces débuts, cette fin, sur le champ d'une petite demi-heure. Cela s'appelle faire des pastiches. Leurs débuts et fins seront soumis à l'expertise de Patrice Caumont et Odile Conseil, qui démêleront le vrai du faux, peut-être, retrouveront le vrai Ionesco ou pas, et attribueront à chacun son pastiche, pourquoi pas. Tous faussaires comme experts sont très cultivés, mais ce jeu est difficile, il faudra que les experts soient très forts. Première partie avec Jean-Bernard Pouy, vous avez choisi quelle œuvre d'Eugène Ionesco, Jean-Bernard ?
Il s'agit, selon une critique de l'époque, d'un livre de l'intranquillité. C'est Le solitaire, unique roman d'Eugène Ionesco, paru en 1973. Donc c'est un texte assez noir qui est placé sous l'égide de... Moi j'y ai vu beaucoup d'Emmanuel Bove quand même, qui était beaucoup plus ancien. Sioran, bien sûr, qui traîne un peu dans les marges. Et un peu Georges Perec quand même. Enfin, beaucoup Georges Perec, un peu dans les choses... où il y a un portrait de l'époque qui est assez précis et froid, et puis surtout un homme qui dort, parce que le sujet du roman de Ionesco est similaire à celui de l'homme qui dort. L'homme qui dort, c'est un étudiant qui reste dans sa chambre. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui s'ennuie au travail, qui est un petit fonctionnaire un peu bas de plafond, et qui, alors encore jeune, à un peu plus de 35 ans, fait un héritage qui lui permet, un, d'être rentier, et surtout de ne plus travailler. Il change donc d'appartement et de quartier, et peu à peu, tente d'apprivoiser cette nouvelle vie, les nouveaux gens qu'il rencontre, sa nouvelle concierge, le nouveau bistrot où il va aller surtout pratiquer le Beaujolais. J'ai remarqué que le Beaujolais pour Ionesco est très important. Mais cet homme est un neutre, un fanatique de la neutralité. Il n'est ni pour ni contre, et peu à peu, dans son parcours quotidien répété à l'infini, il devient une espèce de fantôme parmi les fantômes. C'est aussi un livre sur l'indécision. Notre homme qui n'a pas de nom, c'est un roman du jeu, est également indécis sur l'indécision. C'est-à-dire qu'il prend tous les termes et il les retourne, bien sûr. Les critiques y ont même vu du Pascal dans ce texte. Alors, je ne sais pas si c'est Pascal Obispo, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu Pascal. Enfin, vas-y. Ce qu'il y a de Pascal, c'est qu'on ne sait rien, mais il vaut mieux parier quand même. On ne sait pas, mais il vaut mieux essayer de savoir. D'ailleurs, notre homme est contre, mais aussi pour. Ce genre de pari ontologique, comme le pari, tout s'organise autour de ce ni-ni. C'est inconcevable de ne pas penser l'inconcevable. Il y a beaucoup de formules de ce genre.
Vous savez, Odile Conseil, vous allez être experte, mais vous n'êtes pas obligée de scripter absolument tout ce que dit Jean-Bernard.
Si, je suis sûre que ça va m'aider beaucoup.
On n'en est pas encore au début et à la fin, mais peut-être qu'on approche de l'ambiance du début et de celle de la fin.
Non, mais c'est important de savoir tout ça quand même.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, on peut dire que ce roman est une dilatation euphorique du moi.
Oh, quelle jolie expression.
Qui pourtant n'existe pas. Tout existe et son contraire également. C'est ça qui est assez intéressant quand même. Alors, la deuxième partie du texte est très différente. Elle tire plutôt du côté de Kafka, ou de Buzzati, plutôt. C'est-à-dire, beaucoup plus proche du théâtre de Ionesco, c'est une espèce d'absurde philosophique. Donc, autour de cette ville, il y a une guerre civile, une révolution, on ne sait pas trop. Après ces événements tragiques, son quartier est totalement détruit, sauf sa maison, pratiquement. Et la ville renaît autrement. Et alors, on réalise tout simplement, je fais court, hein, que notre homme a vieilli et que la mort s'approche. Alors, il voit symboliquement une trouée dans le ciel, une échelle y montant. Il est un peu comme Chevènement qui voyait un grand tunnel avec des mains au bout. C'est un peu ce genre-là. Et alors, il trouve une sorte de repos après toute une vie, disons, de névrosée obsessionnelle, d'angoissée et quelquefois de paranoïaque.
Bon, alors l'ambiance du début, succinctement.
Alors, cinq lignes, en gros, de présentation de la vie de notre personnage.
D'accord.
Directement.
Oui.
Et de sa nouvelle situation, celle qui va déterminer sa nouvelle vie.
D'accord. Et la fin.
Et la fin, cinq lignes aussi, dont une dernière phrase courte et symbolique. Et alors, sa vision paradisiaque, comme je vous ai déjà dit, disparaît et il se sent, pour la première fois, mieux.
On est content pour lui.
Bon. Alors je rajoute que l'écriture de ce roman est simple.
C'est bref.
Ponctuée, régulière, rythmée, des phrases assez courtes, apparemment détachées, mais une écriture prégnante et surtout claire.
Très bien, je trouve que c'est un très bon exposé de la situation.
Je vous remercie.
Il est nommé le personnage ?
Non, c'est je.
C'est l'innommé.
Lucas Fournier, Patrice Delbault.
La fin, c'est un peu succinct quand même comme information.
Dans le texte, c'est également succinct. C'est quand même quelqu'un qui est dans une angoisse paranoïaque et obsessionnelle totale pendant tout le roman. Et puis tout d'un coup, le ciel s'ouvre. Et donc il y a une espèce de vision un peu bébête, un peu neuneux de ce que peut être une autre vie ou une vie paradisiaque.
C'est très bien. Alors, Sophie Divry, Patrice Delbault, Lucas Fournier, vous allez écrire sur le champ. Ce que vous croyez être le début et la fin du solitaire de Ionesco, hein, c'est pas facile, Sophie, ça ira.
Ça va aller.
Elle a pas trop d'expérience dans le jeu. Bah,
c'est peut-être plus facile quand on l'a pas lu.
C'est possible, pense, hein. C'est possible. Et nous aurons deux experts, ma foi, de choc, comme on dit, Odile Conseil et Patrice Comon. Heureux que ça se passe sur du Ionesco, cette expertise.
Moi, je suis un peu déçue parce que quand j'ai entendu le solitaire, je pensais que ce serait une histoire de diamant. Et finalement, non.
Non, c'est pas Breakfast at Tiffany's.
Dommage.
J'ai récupéré les UNESCO, c'est formidable. Donc il y a le vrai UNESCO et puis le UNESCO de Patrice Delbourg, celui de Sophie Livry, celui de Lucas Fournier. Je les mélange. Amis experts, ça va être à vous de briller parce que les faussaires, je suis bien certaine qu'ils sont brillants. Prenez un texte chacun et vous m'en laissez un puisqu'il faut un quatrième lecteur. Ce sera une lectrice, ce sera moi. Donc, nous avons chacun un texte et nous allons vous les lire. Premier faussaire à lire, c'est Patrice Delbourg. Lit-il son propre texte, celui de Ionesco, celui de Sophie Livry, celui de Lucas Fournier. À vous de dire, vous aurez deux tours. Au premier tour, on prend des options. Au deuxième tour, on affirme.
D'accord.
Patrice Delbourg.
À 35 ans, il est temps de se retirer de la course. Si course, il y a. J'en avais par-dessus la tête de mon emploi. Il était déjà tard, je n'avais pas loin de 40 ans. Je serais mort d'ennui et de tristesse si je n'avais pas fait cet héritage inattendu.
La fin ?
Cela s'éloigna, sembla fondre. L'échelle disparut, puis le buisson, puis les arbres, puis les colonnes avec l'arc triomphal. Quelque chose de cette lumière qui m'avait pénétré resta. Je pris cela pour un signe.
C'est bien sinistre tel que vous l'avez lu. On a envie de se tirer une balle dans la tête.
Quand même, hein.
Ah oui, mais le ton d'Elbourg. Est... Alors, je vous ai vu un peu froncer les sourcils, Odile. Convaincu, pas convaincu par ce pastiche.
Déjà un peu interrogatif sur le mélange des âges entre 35 ans et 40 ans. J'ai pas bien compris à quel moment il se retirait. Donc, j'ai l'impression qu'on a affaire à un faussaire qui n'a pas très très bien écouté Pouy et qui s'est un peu emmêlé les crayons. C'est ma première impression.
D'accord. Première impression de Patrice Gaumont.
Oui, c'est pas mal. Surtout la fin. La fin, c'est bien écrit. Ça peut être... Il y a peut-être un détail qui m'a gêné, c'est la notion de tard sans être lié à la vie. Parce qu'on peut dire qu'il est déjà tard dans ma vie, mais là, c'est simplement tard pour un problème d'âge. Là, je trouve ça bizarre. Alors, est-ce que...
Oui, comme s'il avait dit « il est tard pour aller dîner ».
Oui, il est un peu tard, ouais, c'est ça. J'ai trouvé l'emploi de tard un peu bâtard, si je puis dire.
Oui.
Mais de toute façon, ça va être très difficile, cette expertise, parce que si on connaît par cœur le style de Lucas Fournier, de Ionesco et de Sophie Divry, on connaît un peu moins le style de Delbourg.
Non. Donc,
on a lu un livre de Delbourg, c'est sûr, un seul livre, excellent d'ailleurs, mais c'est pour ça que l'expertise va être un peu difficile.
Allez, deuxième lecture, elle vous est proposée par Sophie Divry.
Aujourd'hui, je peux compter sur moi. Enfin, je crois. J'ai passé des années assis à attendre derrière un bureau d'une administration. Un héritage bienvenu m'en a délivré. Cet argent d'un oncle défunt m'a offert une nouvelle maison dans un nouveau quartier. Je n'ai pas 40 ans, je peux donc commencer à exister.
Voilà pour le début. Oui, Odile fait des grands signes. Elle est très visuelle, Odile. C'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo. C'était un grand signe qui avait l'air de vouloir dire oui, non ?
Ah oui, j'opinais du chef, assurément.
Alors écoutez la fin.
On dirait que le soleil de novembre fait quelque chose de défendu. Mais il est bien là, ce matin. J'ai grimpé en haut de l'escabeau pour le regarder, comme si je montais au ciel. C'est bien de pouvoir finir quand tout commence.
Ah, c'est une jolie fin, ça. C'est bien de pouvoir finir quand tout commence. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en pense, Patrice Gaumont ?
Le début était absolument parfait. Rien à dire, tout à fait proche. Non, mais en plus, les références qui ont été données, aussi bien de Perret, Kafka, Beauve, etc., ça va, c'est parfaitement bien écrit, le début. Là où, effectivement, on peut se poser des questions, là, je ne dis pas que la fin est mal écrite, mais elle n'a pas le côté... révélation, entre guillemets, plus ou moins mystique, que nous avait un petit peu annoncé Pouy, avec cette trouée dans le ciel devient oui. Juste un petit trou, et l'échelle qu'on imaginait, une échelle de Jacob, enfin l'échelle des anges, devient un escabeau. L'escabeau mystique, je connais l'agneau mystique, mais l'escabeau mystique me gêne un petit peu, franchement.
Vous êtes troublé par l'escabeau.
Ah oui, non, l'escabeau, et aussi le ciel de novembre. C'est un puits de lumière qui tombe d'en haut, c'est comme ça que nous l'avons lu, puis c'est pas le ciel de novembre.
Bon, d'accord, vous fâchez pas.
Ah non.
Odile, vous prenez des notes. D'accord avec votre camarade expert?
Moi, je ne suis pas d'accord sur le début qui n'est pas parfait, parce que je pense que cet homme qui s'ennuie, qui n'est ni pour ni contre, qui est neutre, ne dirait pas un héritage bienvenu. Pour lui, rien n'est bienvenu. Ça arrive, quoi.
Pas
c'est
bête,
comme ça.
Pas bête, oui.
Et donc, qualifier cet héritage de bienvenu me semble un peu trop excitant pour ce garçon.
Oui.
Donc, je pense que nous avons affaire à un faussaire. Après, sur l'escabeau, effectivement, ça arrête aussi. Alors, pareil, on peut se dire un faussaire malin, mais ils le sont tous les trois. Dit à Cipouille, a dit échelle, c'est qu'il ne doit pas y avoir échelle dans le texte, mais un mot approchant, donc tiens, je vais mettre escabeau.
C'est déjà quelqu'un qui est malin.
Voilà. Donc, je penche aussi pour un faussaire, lequel va savoir.
D'accord. Troisième lecture par Lucas Fournier. De qui est le texte qu'il va nous lire?
Ce soir-là, quand j'ouvre mon courrier en rentrant du bureau, je n'ai aucune attente particulière. Après une journée sans intérêt d'un travail imbécile, je n'espère comme toujours qu'une soirée ordinaire. Pas ce pli de notaire qui me fait soudain hériter de 3 millions de francs.
La fin.
Les nuages s'ouvrent, la pluie maintenant cesse, c'est beau. Un long moment, je reste dessous cet arc extraordinaire. J'y suis toujours, encore un peu, avant que tout s'efface. Ma vie est un nuage. Ma mort est arc-en-ciel.
C'est formidable, Jean-Bernard Puy, parce que ces textes se ressemblent tous un petit peu. Ils ont tous très bien suivi vos consignes. Et Eugène Ionesco également.
Oui,
s'il est parmi
Eugène
eux pour
Ionesco
le moment.
A extraordinairement bien suivi mes consignes également. Oui. Je suis d'accord.
Bon, alors, vos réactions à cette lecture, Odile Conseil.
Alors, je pense que le présent, déjà, le distingue des deux autres. En ce sens-là, c'est assez malin. Alors, est-ce que Ionesco écrivait au présent? Je ne sais pas. Après, on a affaire à quelqu'un qui aime bien les adjectifs. Là, dans cette première partie, il y a ordinaire, imbécile, je ne sais quoi. Donc, il y a soit très bien suivi la consigne pour montrer que tout est un peu gris, un peu différent, un peu triste, un peu comme ci, comme ça. Soit Ionesco. Ça me semble possiblement être Ionesco.
Ah, une petite option Ionesco.
À confirmer.
Pour Odile Conseil. Oui, je dis petite. Patrice Caumont, réaction.
Moi, réaction très, très, très mitigée.
Ces là... textes n'ont pas l'air de vous plaire.
Non, ah bah si, les deux autres m'ont tout
ah
à
bon,
fait.
Ah bon, d'accord, d'accord, vous me rassurez.
Là,
oui.
Là, vraiment, je suis très très circonspect par la mort arc-en-ciel.
Je sais pas. Hein.
Je connais la truite arc-en-ciel.
Ma mort est arc-en-ciel.
Oui, ma mort est arc-en-ciel.
C'est assez en accord avec la vision bébête dont parlait un peu Jean-Bernard aussi.
Oui, le personnage, ni oui ni non, la mort est arc-en-ciel. Non, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas.
Non, My Death is a Rainbow. ça, c'est pas terrible.
Ça sonne pas bien.
Non, c'est la mort. Le reste, on serait presque fait avoir. Mais là, ma mort est arc-en-ciel. Non. Et en plus, je bloque tellement. Alors le problème, c'est que je ne sais pas, à l'instant où je vous parle, chers auditeurs, je ne sais pas à qui l'attribuer.
Ah oui. Aye.
Parce que c'est pas Delbourg, je pense pas que la mort arc-en-ciel soit de Sophie, je pense Lucas Fournier non plus, donc c'est peut-être du...
Embêté.
À cause de cette mort arc-en-ciel, à moins que Delbourg, mais Delbourg est un peu souffrant, mais quand même, elle serait plus que...
Frétillante.
Elle serait plus qu'arc-en-ciel, il y aurait eu du prisme, il y aurait eu autre chose, il y aurait eu du Goethe, il y aurait eu de la théorie des couleurs, il y aurait eu autre chose.
Oui.
Là, ma mort est arc-en-ciel, pont. On dirait une fin d'Éluard. Super, je suis d'accord.
Vous aurez un deuxième tour, taisez-vous Jean-Bernard Pouy, vous n'avez rien à dire.
Sur Éluard.
Alors, moi je vous lis le quatrième texte. De qui est-il? La nuit talonnait le jour sous les tentures rayées des brasseries. Les colonnes Maurice prenaient un air mal ajusté. Souvent, la brune venue, je commençais à... Taisez. Patrice, comment arrêter de faire des signes parce que vous allez me faire rire. Souvent, la brune venue, je commençais à emménager dans le fade. J'avançais vers mon indécision, comme un gamin sur la marelle, une semelle dans l'imaginaire, l'autre dans le quotidien. La fin. La valse des néons entraînait les passants en avalanche. Je luttais contre mon propre sosie. Toujours ce goût de vivre si mal, machinalement peut-être. Dans un éclair de nuages, une jeune femme en bleu trébucha sur le passage clouté. empêtré dans ses provisions la laisse de son caniche et le manche de son ombrelle. L'existence abattait là son plus bel atout, l'imprévu. Alors, il y a eu des sourires pendant ma lecture, des rires. On Sophie a pouffé, oui. Elle est en train de s'étouffer. Mais vous êtes faussaire, oui, Sophie. C'est la tête des experts qui vous fait rire. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait des mimiques pendant toute ma lecture?
Juste, pouvez-vous relire simplement les quelques premiers mots, la première phrase.
La nuit talonnait le jour sous les tentures rayées des brasseries.
Je pense qu'on est d'accord avec comment là-dessus.
Alors là.
Sur l'auteur de Céline, oui.
Là, ça sent. Là, c'est un poète qui a écrit ça.
Oui, alors.
Alors, Ionesco était un poète, parfois.
Oui.
Mes camarades aiment la poésie, mais le grand poète souffrant, en plus, aujourd'hui, ce qui peut expliquer une petite faiblesse, c'est quand même Patrice Delbourg. Donc, là, quand même, disons qu'il y a une forte. Il y a une empreinte.
Une empreinte Delbourg.
Une empreinte digitale. Oui. Mais c'est très joli. Et puis surtout, il y a quand même un non-respect. Je pense pas que Sophie, dans ses débuts, pourrait. Donc j'élimine Sophie, parce qu'elle a forcément suivi la consigne.
Oui.
Alors que là, la femme en bleu qui promène son chien. Là, on sent vraiment l'abus des drogues de toutes sortes. Car transformer un escabeau en caniche, seul un poète peut. C'est un escaniche. Et ça, il n'y a que Delbourg qui peut faire ça.
Bon, sous médicaments antitussifs, etc. Donc, ce serait du Delbourg. Il ne répond pas parce qu'autrement, ça va le faire tousser. Odile Conseil, qu'est-ce que vous pensez?
Mais je pense que Patrice Delbourg aime tellement les mots, aime tellement les mettre en bouquet qu'il ne peut pas résister, même dans ce jeu, quitte effectivement à enfreindre totalement la consigne, parce qu'il n'est pas du tout question de la manne qui tombe du ciel à ce jeune homme.
La jeune femme en bleu, la manne.
Non, alors, où il a été malin, mais vraiment très malin, et là, chapeau l'artiste, c'est que l'échelle devient chez lui un passage clouté. Car qu'est-ce qu'un passage clouté si ce n'est une espèce d'échelle qui est par terre et qui nous permet de monter vers l'autre côté de la rue?
Ah, oui.
Donc, c'était bien tenté, monsieur Delbourg.
Bon, au moins, vous avez une certitude quasi, c'est que le texte, quasi. Le texte que je viens de lire serait, j'emploie un conditionnel, du Delbourg. Oui. Alors, deuxième tour, et là, vous devez trancher à chaque lecture. Donc, on reprend les lectures. On commence par Patrice Delbourg.
À 35 ans, il est temps de se retirer de la course, si course il y a. J'en avais par-dessus la tête de mon emploi. Il était déjà tard, je n'avais pas loin de 40 ans. Je serais mort d'ennui et de tristesse si je n'avais pas fait cet héritage inattendu.
Voilà, pour le début, la fin.
Cela s'éloigna, sembla fondre. L'échelle disparut, puis le buisson, puis les arbres, puis les colonnes, avec l'arc triomphal. Quelque chose de cette lumière qui m'avait pénétré resta. Je pris cela pour un signe.
Bon. Et alors, verdict de qui est ce texte que Patrice Delbourg vient de lire?
Alors effectivement, j'avais fait le tard. Il y avait, fait les,
oui,
il y avait
tard,
la notion du
gênez,
tard.
Oui.
Il y a deux choses qui fait que finalement, et compte tenu du reste, je pense qu'on va aller vers Ionesco. Parce que à l'époque où il a écrit Le Solitaire, il n'avait pas des habitudes tellement d'utilisation du français.
Oui.
Pas encore. On peut dire que tard, je suis tard dans ma vie, ça peut être une expression qu'on dit souvent en Roumanie.
Ah,
moi,
oui.
Je suis tard dans ma vie. Et toi, t'es tard, moi, je suis tard. Et toi, t'es tard.
T'es tard.
Et toi, t'es tôt.
Donc, et puis, cet arc, qui n'est pas un arc-en-ciel là, mais qui est un arc boutant, si je puis dire, comme disait Pierre. Donc, je pense que, voilà, c'est inattendu.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a aussi tout ce qu'a dit Jean-Bernard. Donc, moralité, il y a deux hypothèses. Ou c'est Sophie qui a vraiment appliqué à la règle les consignes, ou c'est Ionesco.
Mais alors,
j'écarte tout le monde sauf Ionesco.
Donc, Sophie passe à la traque. Et donc, nous avons un Ionesco flambant. Odile Conseil, pour vous. Vous aviez trouvé bizarre le 35 ans, 40 oui, ans qui oui. venait très rapidement.
Moi, je vais écarter Ionesco parce que même réflexion que sur l'utilisation de l'adjectif bienvenue dans le texte suivant, je ne pense pas que ce héros, tel que nous l'a décrit Jean-Bernard Pouilly, serait capable de dire de lui-même « je serais mort d'ennui ». Il ne se rendrait même pas compte qu'il meurt d'ennui, parce qu'on meurt d'ennui sans s'en rendre compte quand on est un homme comme je pense qu'il est. Donc, je dirais Lucas, parce qu'aussi toute cette succession qu'il y a dans la fin, l'échelle disparue, puis le buisson, puis les arbres, puis la forêt, puis les colonnes, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose d'une marche à la fois dans la campagne et dans la ville. Et qui mieux autour de cette table que Lucas symbolise à la fois la campagne et la ville, Paris et la Malou.
Et prend-il donc, c'est argumenté, c'est plutôt gentil en plus. Hein? Donc nous avons un Ionesco pour Patrice Caumont, un Lucas Fournier pour Odile Conseil. On poursuit les lectures avec la lectrice Sophie Divry.
Aujourd'hui, je peux compter sur moi. Enfin, je crois. J'ai passé des années assis à attendre d'ailleurs un bureau d'une administration. Un héritage bienvenu m'en a délivré. Cet argent d'un oncle défunt m'a offert une nouvelle maison dans un nouveau quartier. Je n'ai pas 40 ans, je peux donc commencer à exister.
Début et fin.
On dirait que le soleil de novembre fait quelque chose de défendu. Mais il est bien là ce matin. J'ai grimpé en haut de l'escabeau pour le regarder, comme si je montais au ciel. C'est bien de pouvoir finir quand tout commence.
Voilà, alors tout à l'heure, Patrice Caumont, vous étiez très sceptique sur le soleil de novembre pour Ionesco. Bah, ça tombe bien, vous avez déjà attribué Ionesco. Donc Ionesco ne joue plus avec nous. Reste Patrice Delbourg, Sophie Divry et Lucas Fournier. De qui est ce texte?
Il ne peut être que de alors c'est l'escabeau.
Oui, l'escabeau vous dérange beaucoup, oui.
Là, c'est l'escabeau. Donc, soit on considère que... Il y a de l'humour, donc oui. C'est Sophie.
Oui.
Soit on considère qu'il y a une légère négligence, et ça peut être, ou un oubli, et ça peut être Lucas.
Mais oui, donc.
Donc
on est embêté. Ils
savent que ce n'est pas le même usage de l'escabeau dans les deux cas. On
ouais,
a bien noté,
bien
il y en a un
oui.
qui n'a pas fait gaffe. Par contre, c'est vrai que le souci de l'administration, on a parlé de Kafka, d'être assis au bureau, et puis le côté un peu Camus. J'ai 40 ans, je peux exister, ou je ne sais pas ce qui est dit. Lucas.
Lucas, bon, c'est légèrement méprisant, oui, je trouve. Ça.
Non, mais pas, à cause, parce que, non, juste méprisant non, mais... sur cette formule, est-ce qu'on peut la redonner? J'ai 40 ans, je peux vivre, ou je ne sais pas quoi.
Je n'ai pas 40 ans.
Je n'ai pas 40 ans, je peux donc commencer à exister.
Oui, bah ça, alors là... Non, non, là, faut sortir le violon, le mouchoir, parce que des fois, le violon fait un petit peu mal au cou. J'ai 40 ans, je peux commencer à exister. Non, une petite faiblesse, hein, Lucas. Bon, ça arrive.
Bon, oui.
Il y aura
oui.
un verdict, hein, tout à l'heure.
Oui, oui, oui.
Comme dirait Kafka.
Oui. Odile Conseil, votre opinion sur le texte lu par Sophie Divry?
Alors, ce texte, je trouve que le début est vraiment très, très bien. Et je pense que c'est Sophie qui parle d'elle-même, parce que elle est nouvelle à ce jeu, hein,
oui.
vous l'avez dit Françoise, et qu'est-ce qu'elle dit? Aujourd'hui, je peux compter sur moi, enfin je crois. Donc on voit aussi, alors ça tombe bien parce que c'est à la fois toute l'intranquillité et le doute du héros du solitaire, et c'est Sophie, c'est exactement elle, donc on la retrouve, c'est une chance pour elle. Et effectivement, je crois que l'idée d'avoir dit l'escabeau, pour ne pas dire échelle, en se disant tiens Pouilly a dit échelle, donc ça doit être un autre mot, qu'est-ce qui ressemble à échelle, à l'escabeau? Ça me semblerait très très bien quelque chose de sa part, quelque chose de rusé. Donc Sophie.
Très bien, ben, écoutez, un Lucas Fournier légèrement pas malveillant, mais enfin bon, un Lucas Fournier en petite forme
lucide.
Selon Patrice Caumont et une Sophie Divry brillante mais nouvelle sur ce jeu pour Odile Conseil. Troisième lecture, Lucas Fournier.
Ce soir-là, quand j'ouvre mon courrier en rentrant du bureau, je n'ai aucune attente particulière. Après une journée sans intérêt d'un travail imbécile, je n'espère comme toujours qu'une soirée ordinaire. Pas ce pli de notaire qui me fait soudain hériter de 3 millions de francs. La fin ?
Ouais.
Les nuages s'ouvrent. La pluie maintenant cesse. C'est beau. Un long moment, je reste dessous cet arc extraordinaire. J'y suis toujours, encore un peu, avant que tout s'efface. Ma vie est un nuage. Ma mort est arc-en-ciel.
Voilà, alors la fameuse mort arc-en-ciel qui ne vous plaisait pas trop, Patrice Caumont.
Si on,
Ah, finalement, c'est pas si mal.
c'est pas si mal. Non, mais là, c'était mieux lu, c'était plus...
Ah oui.
Non, ça peut tout à fait être... Donc, juste un point de détail, les derniers mots du début.
Pas ce pli de notaire qui me fait soudain héritier de 3 millions de francs.
Bah, c'est le pli de notaire qui me...
Qui vous gêne.
Mais sinon, je vois oui, le pli de notaire, 3 millions de francs, mais sinon, l'arc-en-ciel et tout... Oui, non, bah, je dirais Sophie d'Ivry sans hésiter, finalement, maintenant.
Mais parce avec que, un argument pour...
Ben, l'argument pour, c'est qu'il y a un arc qui arrive avant qu'il soit dit en ciel. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Dans le texte que j'attribue à Ionesco, il y a cet arc aussi, mais qui, on ne sait pas si c'est un arc de genre Titus, un arc de triomphe, si c'est un arc de soudure à l'arc, si c'est Robin des Bois, c'est un arc. Tandis que là, on voit que l'arc, d'abord, magnifique trouvaille de retrouver l'arc, mais je ne sais pas pourquoi l'arc-en-ciel... non, je vais dire Sophie. D'abord, je suis obligé de dire Sophie.
Très bien. Une Sophie d'Ivry pour Patrice Comon. Et pour Odile Conseil ?
Eh bien, un Ionesco. Moi, je trouve ce texte parfait à tous égards. Alors, si je n'avais pas déjà choisi Lucas Fournier, j'aurais pu aussi lui attribuer, parce qu'il y a un petit peu de Lucas là, là-dessous, avec ce brillant qu'on lui connaît, cette capacité à tout d'un coup sortir 3 millions de francs, ce qui est une très très bonne idée, parce qu'en plus, on n'a pas du tout idée aujourd'hui de savoir 3 millions de francs, ce que ça représente en 73, enfin, assez pour devenir rentier en 73, peut-être, disons oui. Mais comme je n'ai pas cité Ionesco, eh bien, je le cite, et de bon cœur.
Ils sont sympathiques, nos experts. On verra le résultat tout à l'heure. Alors moi, je vous relis le dernier texte que vous avez attribué en chœur au premier tour à Patrice Delbourg. La nuit talonnait le jour sous les tentures rayées des brasseries. Les colonnes Maurice prenaient un air mal ajusté. Souvent, la brune venue, je commençais à emménager dans le fade. J'avançais vers mon indécision, comme un gamin sur la marelle. Une semelle dans l'imaginaire, l'autre dans le quotidien. C'est un joli texte.
C'est un très beau texte.
La fin. La valse des néons entraînait les passants en avalanche. Je luttais contre mon propre sosie. Toujours ce goût de vivre si mal, machinalement peut-être. Dans un éclair de nuage, une jeune femme en bleu trébucha sur le passage clouté. Empêtrée dans ses provisions, la laisse de son caniche et le manche de son ombrelle. L'existence abattait là son plus bel atout, l'imprévu.
C'est magnifique.
Non, mais attends, je trouve ça très très beau.
Ah oui. Ben,
c'est absolument magnifique.
Moi, je trouve ce texte absolument splendide et complètement hors sujet.
Oui. Donc, voilà, c'est ce qui a été dit au premier tour et Odile Conseiller d'accord.
J'abonde absolument dans ce sens, mais après je pense que Patrice Delbourg ne veut pas qu'on le confonde avec quelqu'un d'autre, donc peut-être qu'il peut interroger après son divan...
Alors, je ne tenterai pas un résumé de la situation parce que les textes, en dehors du dernier que je viens de lire, sont tout de même assez semblables sur la forme et le fond, à part bon, un escabeau par-ci, un arc-en-ciel par-là. Qui a en main le vrai texte de Eugène Ionesco ?
J'ai sous les yeux Ionesco.
C'est Patrice Delbourg. Oui. Oh, mais... Patrice Comon a gagné un point. On peut réécouter ce texte, alors.
C'est un hommage à Séguéla. À 35 ans, il est temps de se retirer de la course. Si course il y a, j'en avais par-dessus la tête de mon emploi. Il était déjà tard, je n'avais pas loin de 40 ans. Je serais mort d'ennui et de tristesse si je n'avais pas fait cet héritage inattendu.
Et la fin, alors ?
Qui est un hommage à Goldman, là. Je pris cela pour un signe.
Oui, c'est la fin de la fin. Eh bien, écoutez, toute votre divagation sur tard, finalement, était bienvenue. Il était tard, et c'est Eugène Ionesco. Alors bon, un petit zéro pour Odile Conseil, qui trouvait bizarre ce 35-40 ans, et qui a attribué ce texte à Lucas, parce qu'il avait quelque chose de grand, quand même. Donc, quelque part, vous avez été pris pour Ionesco. Lucas Fournier, c'est flatteur ?
Ah oui, ça me fait très plaisir, oui. C'est la première fois.
Allez, un Comon, zéro Odile Conseil. On reprend les lectures dans l'ordre, un petit bout, le début par exemple, Sophie d'Ivry.
Aujourd'hui, je peux compter sur moi, enfin je crois. Je n'ai pas 40 ans, je peux donc commencer à exister.
Oui.
Et la fin, on dirait que le soleil de novembre fait quelque chose de défendu. Mais il est là ce matin. J'ai grimpé en haut de l'escabeau pour le regarder, comme si je montais au ciel. C'est bien de pouvoir finir quand tout commence. Et c'est du Lucas Fournier.
Ah, oh, mais dites donc, Patrice, comment vous êtes éblouissant.
L'escabeau.
L'escabeau,
oui, oui.
L'escabeau de Lucas Fournier. Un nouveau point pour Patrice Caumont, un nouveau zéro pour Odile Conseil, qui avait attribué cet escabeau à Sophie Dibry.
Je pense que je vais vers les 4-0. Oui, mais... Je suis mais... très contente de vous avoir fait jubiler à deux points.
Bon, deux points pour Patrice Caumont, c'est brillant. Lucas Fournier, vous avez lu le texte de qui?
Alors j'ai lu le texte de Sophie, où il était question de ce pli de notaire qui me fait soudain héritier de 3 millions de francs, et surtout de ma vie est un nuage, ma mort est arc-en-ciel.
Ah, cette fameuse
expression.
Eh bien,
c'est Sophie.
Et le troisième point de Patrice Caumont, ouais, voilà, il est parti pour le sans-faute.
Grand chelem, là, oui.
Le quatrième que je vous ai lu, c'est du Delbourg. J'aimerais bien que Patrice Delbourg le relise lui-même. Choisissez ou le début ou la fin. Les deux sont magnifiques.
La colonne Maurice.
Peut-être là,
emménagé dans le fade, c'est tellement beau.
Ouais, allez, le début peut-être.
La nuit talonnait le jour, sous les tentures rayées des brasseries, les colonnes Maurice prenaient un air mal justé. Souvent, la brune venue, je commençais à emménager dans le fade. J'avançais vers mon indécision, comme un gamin sur la marelle. Une semelle dans l'imaginaire, l'autre dans le quotidien.
Voilà, très joli texte de Patrice Delbourg. Argumenté, vous l'avez attribué à Patrice Delbourg parce que c'est un poète. Mais c'est vrai, oui. Mais vous avez raison aussi, n'essayez jamais de jouer à notre jeu, non. Patrice Delbourg.
Moi, je vais vous dire, les consignes, il y a des limonadiers pour ça.
Je dis bravo à Patrice Caumont parce que ça ne lui arrive pas si souvent d'avoir 4 sur 4.
Tout le temps. Tout le temps, il gagne tout le temps.
Oh, mais non, mais pas
c'est
tout. C'est
pénible même, je trouve.
C'est vrai.
Gilles était très riant. Je vais vous lire simplement deux extraits du roman. Pourtant, je suis comme tout le monde à notre époque, sceptique, désabusé, fatigable et fatigué, vivant sans but, travaillant le moins possible, parce qu'on ne peut pas faire autrement, un peu gourmand, de l'alcool, un bon plat pour échapper, de temps à autre, à cette amertume et à cette lassitude universelle.
Magnifique, c'est vraiment un roman méconnu et à lire, le solitaire.
Oui, enfin, ça, quand même, ça prend la tête. Hein.
Ah oui.
Moi, je l'ai lu dans le TGV, j'ai failli descendre avant la station. Hein, comme, un autre exemple, je philosophe trop, c'est cela mon tort. Si j'avais été moins philosophe, j'aurais vécu plus heureux. On ne doit pas philosopher quand on n'est pas un grand philosophe.
Oh, il a bien raison.
It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right.
Peter Sellers, A Hard Day's Night, des Beatles. Et pour refermer ce numéro des Papous dans la tête spécial, 60 ans de UNESCO à la Huchette, une page de pub, mais publie pas poussité, proposée par Hervé Le Tellier. Alors, on le sait tous, Hervé Le Tellier, lorsqu'il joue à écrire une publie pas poussité, eh bien, il parle toujours volontiers de lui. Alors, quel rapport avec Ionesco, me direz-vous? Eh bien, vous découvrirez qu'il y a un lien entre lui et la cantatrice chauve de Ionesco. Hervé Le Tellier avec Jeanne Carillon, Éval Massy et Patrice Caumont. Hervé, c'est à vous.
Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie?
N'exagérons pas.
Comment ça, n'exagérons pas? Mes cheveux passent tous de la vie au trépas. Ils me quittent, les bruns, les gris comme les blancs. La chose est importante, et le lait tellement que l'une des premières affiches publicitaires a concerné bien sûr les lotions capillaires.
Mais enfin, les cheveux.
Rien n'est plus important. On en fait des proverbes, des sujets de romans. Même Flaubert en parle. Stendhal, Victor Hugo, Frédéric Dard, la Bible, et même Paul Léoto.
Baudelaire les chante.
Et les cruciverbistes. En sept lettres, moins on en a, plus on s'en fait.
Cheveux!
C'était facile, ça.
Oui, ce sont les tifs, les crins, la tignasse, les douilles, la choucroute, les ronces, et même les panouilles.
Les panouilles?
Oui, les panouilles. Mais pour parler d'un crâne, qu'ils auraient déserté.
La patinoire à mouche?
Là, les expressions manquent.
Tout de même, il y a des beaux chauves. Tenez, Bruce Willis.
Yul Brynner.
Zinedine Zidane.
Monsieur Propre, le géant vert.
Hervé Le Tellier.
Ah non, moi je ne suis pas chauve. Je suis un chevelu modeste, mais vous m'auriez connu hier. Je me souviens d'un crâne que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon front, en ce temps-là, démarrait bien plus bas, jusque sous mes bouclettes. Et si les cheveux gris qui s'installaient ici manquaient de mélanine, c'est là que j'ai connu, tragédie masculine, cette déconvenue. La jeunesse, ça voulait dire on a des cheveux. La jeunesse, on ne les coupait qu'un mois sur deux.
La nostalgie, camarade.
C'est beau un crâne la nuit.
La jeunesse, ça voulait dire on a des cheveux. La jeunesse, on ne les coupait qu'un an sur deux.
Mais vous êtes toujours très bien, Hervé, voyons. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart, avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. Un numéro spécial Ionesco et la Huchette, à podcaster sur franceculture.fr. Et puis rejoignez notre page Facebook, Entre Amis, on se tient chaud au cœur. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres aventures papouesques. Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute des programmes de France Culture. Tiens.